Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 20. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Damien Béchiot et Cyprien Signy.
Il n'y a plus rien à faire en fait avec ses jingles, hein, il fait tout.
C'est bien.
J'adore,
hein,
c'est parti. Et bah alors on y va pour le sommaire, Cyprien, faisons simple.
Investiture J-5. Mercredi prochain, toute la planète aura les yeux rivés sur Washington. On vous emmène dans les coulisses de l'investiture de Joe Biden. Le variant anglais fait trembler l'Europe. On nous répète depuis des semaines qu'il est plus contagieux. Mais comment fait-il pour se transmettre aussi facilement? Vous le saurez en écoutant On défait le monde. Vous découvrirez qui est le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, c'est en Angleterre que vous avez trouvé votre victime pas si innocente. Hein.
Oui, la ministre de la Pêche n'a pas lu l'accord sur le Brexit. Vous ne devinerez jamais comment elle a tenté de noyer le poisson.
Le billet retour quand on vous donne des nouvelles d'une info ou d'un personnage qui a fait la une. Et cette semaine, Laurent, vous avez retrouvé l'homme qui a fait trembler la Macronie.
Alexandre Benalla et sa nouvelle vie, loin de l'Elysée.
D'ici 20h, vous apprendrez des choses avec vos trois infos pour briller au dîner. Vous découvrirez une formidable initiative solidaire pour les étudiants dans Marche ou Rêve. Et évidemment, le jeu qui régale, puisque ce soir, on vous offre de quoi vous réchauffer pendant ces longues soirées de couvre-feu. Non, c'est pas un radiateur, Stéphane. Un appareil à raclette top niveau. La question du jeu, ce sera vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 20.
On défait le monde dans RTL Soir.
Vous réagissez, vous commentez, vous avez à disposition la page Facebook, le compte Twitter de l'émission. Comme tous les matins de la semaine, notre ami Cyprien surfe, vous le savez, à 6h40 et juste avant 8h. Et le surf de la semaine, c'est pour vous le vendredi.
Et cette semaine, alors que vous avez peut-être encore des doutes sur le vaccin contre le coronavirus, faisons appel à notre expert vaccin.
La République, c'est moi!
Oui, c'est lui notre expert vaccin. On fait ce qu'on peut, hein. Jean-Luc. Docteur Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà trouvé l'argument massue contre le vaccin ARN avant Noël, souvenez-vous.
Un vaccin qui se fabrique à moins 60. Bon, vous et moi, au moins si on n'y connaît rien en vaccin, on connaît au moins 2-3 trucs sur le surgelé. Donc, ce vaccin, eh ben, il m'inquiète.
J'y connais rien en vaccin, mais je m'y connais en surgelé. Eh bien, cette semaine, il a changé son fusil d'épaule, car maintenant, il s'y connaît vachement bien en vaccin. Et voilà pourquoi, attention.
Je ne suis pas rassuré. Il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin.
Ah bah oui, c'est sûr que s'il a vécu dans le Jura comme Pasteur, il en connaît un rayon. Hein. Bref, pendant ce temps-là, le gouvernement met le paquet et annonce un site pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Résultat, bah, le lendemain.
Quant à la vaccination, les 75 ans et plus autonomes peuvent s'inscrire depuis ce matin, mais le site santé.fr a buggé.
Oh, ça alors! Et alors, on a les experts informatiques du gouvernement. Du coup, sur le pied de guerre.
Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez, plaf.
Tous au taquet pour réparer santé.fr. Faut dire que...
Sur le site santé.fr, nous enregistrions près de 8000 connexions toutes les secondes sur le site internet ce matin.
8000 connexions chaque seconde. Alors c'est vrai qu'on comprend que ça est planté, hein. Mais alors attendez, 8000 connexions chaque seconde. C'est beaucoup quand même, non? Alors juste un petit calcul là. 8000 connexions chaque seconde. 60 secondes en une minute. 60 minutes en une heure. Ça nous fait plus de 28 millions de connexions en une heure. Donc en gros, ça veut dire qu'en un peu plus de deux heures, on a tous les Français, hein, tous, vous, moi, qui ont essayé de choper un rendez-vous sur vaccin, sur santé.fr. Bon, en même temps, dites donc, ça marche fort, hein, la vaccination. Ou alors, on a peut-être des lacunes en Internet. Mais heureusement, pour prendre rendez-vous, on a aussi l'appel à un centre de vaccination. Et la surprise, quand ça marche, qui est au bout du fil? Eh ben, c'est Jeannot. Si, si, Jean Castex, écoutez.
Allô? Oui, madame, on va le faire.
Donc, il y a deux personnes, hein,
oui. Par an. Alors, lundi à 15h15. Lundi 18, oui, madame. Alors, on va commencer par votre maman. Très bien, son prénom?
Monique.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Et voilà.
Et voilà, on a les droits. Il a marché à fond, ouais, le gars.
Le mec a cru qu'il avait rendez-vous. Castex, standard, bonjour, enfin. Comme de toute façon, dans ce gouvernement, on peut pas s'en empêcher. Pour un rendez-vous vaccin, on a aussi...
Vous avez la possibilité d'appeler un numéro de téléphone national. C'est le 0800...
Le 360 millième numéro vert du gouvernement, ça faisait longtemps.
J'annonce l'ouverture d'un numéro de téléphone, un numéro vert.
Un numéro d'appel.
Nous allons créer un numéro de téléphone.
Cette
numéro
passion téléphone. Numéro vert, à force de créer des numéros verts, fallait bien que ça finisse par arriver. Hier, Olivier Véran explique que le numéro rendez-vous vaccin, c'est le...
0800 009 110.
0800 009 110. Mais il y a deux ans, au ministère du Travail, on mettait le paquet sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, avec un index et un tas de dispositifs dont...
Le ministère du Travail a mis en place un dispositif complet. Un support téléphonique pour répondre à toutes vos questions sur le calcul de l'index.
Et le numéro du support téléphonique, c'était quoi? Le 0800 009 110, vous pouvez vérifier. Le même que pour le vaccin. Et oui, ils en ont tellement utilisé qu'il doit y en avoir plus en stock. Alors, pour calculer votre index d'égalité femmes-hommes maintenant, bah vous vous débrouillez tout seul et puis vivons la semaine prochaine.
Vivons la semaine prochaine. Quel bonheur ce surf de la semaine de Cyprien Sini. On pourra la réécouter une deuxième fois, rien que pour le plaisir. Pour ça, il y aura le podcast à la fin de l'émission, évidemment.
On défait le monde sur RTL.
On y va pour la grosse info de ce soir et ça concerne les États-Unis.
Oui, Brice aux États-Unis, mais notre grand reporter du service étranger est justement actuellement dans l'avion pour Washington. Du coup, on a réussi à faire un point avec lui juste avant qu'il saute dans l'avion. Il nous emmène dans les coulisses de ce qui va être l'événement planétaire de la semaine qui s'ouvre. Bon alors déjà, Brice, on sait que c'est compliqué de voyager en ce moment. Hein, ça fait un moment qu'on aimerait bien le faire, on le fait pas. Pour un événement pareil, on vous demande quoi pour aller aux États-Unis? Un visa, un test PCR? Comment ça se passe?
Oui, de toute façon, quand vous êtes journaliste, il faut forcément un visa pour pouvoir travailler aux États-Unis. Vous faites la demande à l'ambassade à Paris et vous avez le droit à travailler pendant 5 ans aux États-Unis. Alors pas 5 ans en continu, évidemment, c'est ponctuel à chaque fois, sinon il vous faudrait une autorisation de travail. Mais pendant 5 ans, vous n'avez plus de demande à faire puisqu'on estime que vous avez fourni les pièces nécessaires.
Et là, vous l'aviez déjà fait ou vous l'avez fait spécialement pour aller à l'investiture?
Là, je l'ai fait spécifiquement. Mais en plus du visa en ce moment, il faut ce qu'ils appellent une exemption. C'est-à-dire qu'il faut une bonne raison pour aller aux États-Unis, puisque depuis l'Europe, ils limitent au maximum les arrivées. En revanche, pour rentrer des États-Unis pour revenir en Europe, là, il faudra que je fasse un test Covid.
Parce que pour y aller, vous n'avez pas eu besoin.
Voilà, pour l'instant, les autorités américaines ne demandent pas de test Covid négatif. Ils viennent de prendre la décision de le rendre obligatoire le 26 janvier. Mais donc, je ne suis pas concerné, puisque là, on n'est que le 15 janvier. Et l'investiture, c'est le 20.
Et alors, l'investiture, si je me trompe pas, hein, c'est dans 5 jours. Partez un peu tôt quand même, non?
Bah, c'est
quoi, c'est les vacances?
Amusant. C'est au regard du contexte, évidemment, qui est pas apaisé, qui est très tendu. Jamais une investiture ne s'est déroulée dans un contexte aussi tendu aux États-Unis. On a vu, on va pas revenir dessus ici, mais ce qui s'est passé au Capitole il y a 9 jours. L'idée de partir en amont, c'est de voir comment évolue le dispositif de sécurité, être sûr de pouvoir obtenir les autorisations pour couvrir l'investiture, et puis aussi aller à la rencontre de ces électeurs de Donald Trump pour voir si à quelques jours de l'investiture et 9-10 jours après l'invasion du Capitole, quel est leur état d'esprit. Est-ce qu'ils vont continuer à supporter Trump ou est-ce qu'au contraire, pour eux aussi, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose?
Ouais, alors le jour J, ce sera le 20. Alors là, ouais, le monde entier aura les yeux rivés sur ce qui va se passer sur Washington.
Alors oui, et pour l'instant, beaucoup de journalistes seront à Washington, simplement pour des raisons sanitaires. Déjà, il n'y aura pas de public cette année. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que l'investiture va se passer sans, vous savez, ce public que l'on voit habituellement sur le Mall. C'est ce grand espace qui est autour de la Maison-Blanche et du Capitole. Et bien là, pour des raisons Covid, il n'y aura pas de public. Et puis, il y a aussi les raisons de sécurité qui font que là, il y a un peu un inconnu. Alors, on sait à peu près comment ça va se dérouler. Elle est classique, cette cérémonie. On connaît les codes. On se souvient de cette main levée, la main droite levée, la main gauche sur la Bible du futur président. C'était le cas par exemple pour Barack Obama avec sa femme Michelle à côté de lui en 2009.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Donc ça c'est Barack Obama qui prête serment. Et puis 4 ans plus tard, en 2017, eh bien c'était Donald Trump.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president.
Et ces cérémonies, normalement, elles ont lieu avec le prédécesseur. C'est-à-dire que pour Barack Obama, il y avait George W. Bush. Pour Donald Trump, il y avait Barack Obama. Et bien, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, là encore, il n'y aura pas le prédécesseur, puisque Donald Trump, vous le savez, a annoncé qu'il ne serait pas présent à cette cérémonie d'investiture. Et Joe Biden a plutôt salué cette décision, parce que, semble-t-il, le nouveau président américain ne veut pas s'embarrasser de la présence de Donald Trump.
C'est la première fois dans toute l'histoire.
C'est la première fois dans l'histoire américaine que le prédécesseur n'y sera pas. Puis la dernière chose, on l'a appris hier, c'est Lady Gaga qui chantera l'hymne américain et il y aura une performance aussi de Jennifer Lopez. Il y a 4 ans, c'est Beyoncé, donc en 2013, c'est Beyoncé qui avait chanté pour Barack Obama.
Ah, c'est beau Beyoncé qui chante l'hymne américain quand même, c'est la classe. Et alors, pour le reste de la cérémonie, qu'est-ce qu'on sait?
Bah justement, on sait pas trop, c'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, on sait que les normes de sécurité vont être drastiques. Certains habitants de Washington disent ne jamais avoir vu autant de militaires dans la capitale américaine. Près de 20 000 militaires ont été déployés dans la capitale. Et puis vous savez, il y a ces images là, on a vu les militaires dormir dans le Capitole, ah oui, sur le sol, au Congrès, ils sont partout justement pour assurer la sécurité de cette investiture. Dernière chose, on sait que Donald Trump, lui, avait promis une surprise le jour de l'investiture, par exemple peut-être sa candidature pour la prochaine élection en 2024. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours, peut-être qu'il va rester dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, mais pour l'instant... Il y aura peut-être une surprise, mais pour l'instant, c'est pas.
Il va jouer au golf, peut-être.
En tout cas, c'est sûr qu'il y jouera.
Il y a un vrai désir de phagocyter la cérémonie de la part de Trump. Et vous, alors ? Vous êtes accrédité, vous allez y assister, vous serez au plus près ou pas?
Alors, il y a une procédure d'accréditation pour les journalistes pour assister à la cérémonie. Elle a été ouverte il y a des semaines, ouais, mais on a eu aucune nouvelle. Donc la réalité, c'est que on ne sait pas trop qui pourra voir, parce que je vous rappelle quand même que cette cérémonie elle a lieu, vous savez, sur ces fameuses marches, ces, ouais, ces terrasses du Capitole.
Le lieu en extérieur,
ouais,
j'ai pas,
et c'est le lieu qu'ont escaladé et par lequel sont entrés les partisans de Donald Trump. Donc a priori, là, au moment où je vous parle, moi, je pense plutôt qu'on sera tenu, même nous, journalistes, loin, voire très loin.
Eh ben, vous serez nos yeux à Washington pendant toute cette semaine qui s'annonce décisive. Merci, Brice.
Merci
bon,
à vous.
Et bon vol. Ah, juste une question, vous partez en première ou comment ça se passe dans l'avion?
Si la direction vous écoute, évidemment, je pars en classe éco. Ça fait des années désormais que les journalistes voyagent en classe éco.
Ouais.
C'est bien de le préciser.
Et il est encore dans l'avion, on explique. Il est encore dans l'avion, il a eu du retard. Voilà.
L'événement, bien sûr, mercredi aux États-Unis, on le vivra sur RTL, bien entendu, avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Et Brice en particulier. Vous restez bien là, la première info pour briller dans un instant avec Marie.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Il y en aura trois d'ici 20h comme d'habitude et ce soir la première info pour briller au dîner c'est avec Marie et un retour vers le passé 100 ans en arrière.
Oui, il y a 102 ans exactement, le 15 janvier 1919, le jour où une incroyable vague de mélasse a inondé Boston aux États-Unis. Nous sommes sur les docks, là où l'on distille le whisky et où fermente le sucre. Tout à coup, un bruit de mitraillette, des rivets sautent, une gigantesque citerne de mélasse se brise et une vague visqueuse de 3 mètres de haut déferle alors sur le port. Un raz-de-marée de sucre recouvre les rues et balaye tout sur son passage. Voitures, chevaux sont engloutis par le sirop, un train est soulevé de ses rails, des immeubles cèdent. On en avait jusqu'aux hanches, racontait un témoin de l'époque. Ce drame étrange fera 21 morts. Aujourd'hui, la légende raconte qu'en été, quand il fait chaud, des odeurs sucrées de mélasse remontent encore du port sur les docks de Boston.
Génial. Première info pour briller au dîner. En ce vendredi soir, il est 19h33.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est l'éclairage dont défait le monde. Il concerne ce soir le variant anglais.
Oui, c'est le sujet qui agite l'info. Depuis des semaines, on nous répète que le variant anglais du coronavirus est plus contagieux. Et donc, dans cette séquence de l'émission, où un expert nous éclaire sur l'actualité, on a voulu comprendre pourquoi cette souche était plus contagieuse. Bonsoir, Jean-Daniel Lelièvre.
Bonsoir.
Alors, je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Mondor à Créteil. Vous êtes expert à la Haute Autorité de Santé et à l'OMS. Du coup, il y a une question qu'on se pose. On répète sans cesse que le variant anglais est plus contagieux. Mais ça veut dire quoi, plus contagieux? Parce que bon, évidemment, ça contamine plus de gens, on a compris, mais sinon, ça veut dire quoi?
Vous venez de le dire, ça contamine plus de gens, ça veut dire qu'on sait qu'il peut se transmettre plus facilement d'une personne à une autre.
Oui, mais pourquoi?
Alors pourquoi? Simplement parce que ce variant anglais est porteur de ce qu'on appelle des mutations présentes dans une partie importante du virus qui est la protéine Spike. C'est celle qui va permettre au virus de se fixer aux cellules de la sphère ORL et au niveau du poumon et un récepteur. Et ben cette mutation va permettre en fait au virus de se fixer plus facilement sur ce récepteur et donc de rentrer plus facilement dans les cellules, d'où la plus grande transmissibilité du virus.
Est-ce qu'il est aussi plus contagieux parce qu'il y aurait plus de virus dans un peu de salive, ou est-ce qu'il reste plus longtemps en suspension dans l'air, ou est-ce qu'il reste plus longtemps sur les poignées de porte, j'en sais rien, des choses comme ça?
Non, ça, il n'y a pas de raison de penser ça. Par contre, il est évident qu'on est en période hivernale et en période hivernale, il va y avoir des modifications de toutes ces composantes dont vous venez de parler, notamment la transmission et les gouttelettes qui sont présents au niveau de l'ARRE est probablement différent en été qu'en hiver. On a tendance en hiver à être plus au contact les uns des autres parce qu'on est moins dehors et donc on va être plus en contact, ce qui explique souvent que les virus qui sont aéroportés posent plus de problématiques pendant les périodes hivernales.
Mais ça, c'est plus un problème de saison, c'est pas spécifique au caractère du variant du virus.
Non, c'est pas spécifique au variant lui-même, c'est vraiment spécifique à la saison.
Est-ce que ça veut dire que les gestes barrières qu'on applique aujourd'hui ne sont plus suffisants avec ce variant? Est-ce que, par exemple, il faut passer au masque FFP2, par exemple?
Non, ça veut dire simplement qu'il faut respecter absolument les mesures barrières. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du couvre-feu et demain du confinement, parce qu'on sait que ces mesures barrières, on va les mettre en place, mettre en temps, on va oublier de mettre son masque. On sait que c'est pas respecté à 100%, et comme c'est pas respecté à 100% et qu'il est plus transmissible, eh ben il y a forcément une augmentation de la transmission de ce virus si on respecte bien les gestes barrières, si on évite les contacts sociaux, si on met bien son masque et on s'embrasse pas les uns les autres, il n'y a pas de problème.
Est-ce que les 7 jours d'isolement que l'on applique aujourd'hui suffisent est-ce qu'il va falloir s'isoler plus longtemps quand on attrape ce variant?
Il y a à l'heure actuelle pas de raison de penser que la durée du portage va être différente. Pour autant, on attend les résultats plus précis de tout ce qu'on va obtenir à la fois selon les variants en Angleterre, soit en Afrique du Sud par exemple, pour voir s'il y aurait chez certains patients des portages un petit peu plus prolongés.
Donc pour récapituler, si le variant anglais est plus contagieux, c'est parce qu'il rentre mieux dans la cellule, il s'accroche mieux à la cellule. Et donc c'est ça le souci. C'est ça, j'ai bien compris?
Voilà, tout à fait.
Bravo. Eh ben merci en tout cas, c'est que vous avez bien expliqué, Jean-Daniel Lelièvre. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Merci.
Merci, bonne soirée.
Allume la lumière, l'éclairage dont défait le monde, c'est précieux bien sûr. 19h37, toute l'équipe vous accompagne jusqu'à 20h. On défait le monde, la suite dans un instant avec la deuxième info pour briller au dîner. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La deuxième de ce soir, et c'est avec Laurent, c'est un anniversaire, c'est Wikipédia qui fête aujourd'hui ses 20 ans.
Ouais, l'encyclopédie en ligne libre que chacun peut améliorer, c'est comme ça qu'elle se présente d'ailleurs.
C'est ma source.
Ça m'étonne pas.
Ah, c'est pour ça.
A été créée le 15 janvier 2001, elle est gratuite et c'est vrai que vous trouvez de tout, notamment l'Organisation Mondiale des Toilettes, la page lancée de téléphone portable, alors c'est un sport d'origine finlandaise, la liste des animaux qui ont été diplômés illégalement, mais savez-vous quelle est la page Wikipédia écrite en français qui a le plus long titre?
Bah non.
Ouais, c'est dur. Alors, je vous le dis, initiative populaire pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne logement destiné à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver l'environnement. Bref, c'est une initiative suisse rejetée en 2012.
C'est grotesque.
La page Wikipédia francophone la plus longue est-elle consacrée à l'histoire du communisme? Et pour s'amuser un peu sur vous, Cyprien, il n'y a pas que votre année de naissance, né en 1980 et journaliste français qui apparaît. J'ai rajouté il y a 2 heures pour vous, maître du monde et dresseur de Pokémon.
Bon, bah, c'est toujours le cas, ça n'a pas bougé.
Ouais. Monsieur Wikipédia, faut corriger.
La deuxième info pour briller au dîner, signé Laurent Tessier.
RTL. Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, vous êtes à deux doigts de relancer la guerre de 100 ans, puisque ce sont nos amis anglais que vous avez dans le viseur.
Oui, souvenez-vous, fin décembre, toute l'Union européenne retient son souffle, suspendue à l'accord sur le Brexit, ouais. Mille fois repoussé, mille fois discuté. Nous y sommes presque, sauf que les négociateurs britanniques et européens butent sur un dossier. Un sujet qui pourrait tout faire capoter.
Qu'est-ce qui coince encore?
Bon, alors apparemment, il y a une langoustine ou un maquereau qui ne passe pas. Hein. Ça se bagarre encore sur les chiffres de la pêche.
S'ils ne peuvent plus aller pêcher dans ces eaux britanniques, la tension pourrait s'aggraver.
S'il n'y a pas d'accord, il risque d'y avoir des affrontements en mer. C'est une question de vie ou de mort.
Qui a le droit de pêcher dans les eaux britanniques très poissonneuses? C'est le nœud des tractations. Alors le 24 décembre, quand enfin fumée blanche...
Un accord sur le Brexit au pied du sapin.
The deal is done. Un accord est trouvé.
Ah bah cette fois c'est fait. Voilà.
C'est fait et on imagine tous les ministres des pays de l'Union se ruer sur les 1200 pages de l'accord jusque-là tenu secret. Tous sauf une, Victoria Presley. Prentice. Hein, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est elle la première concernée, puisque c'est la ministre britannique de la pêche. De son propre aveu cette semaine, elle n'a pas lu l'accord, car elle était trop occupée le soir du 24. Explication, tenez-vous bien, elle devait préparer le réveillon dans son village et installer la crèche de Noël. Et oui, la magie de Noël. On s'incline devant cet argument massu. Les santons n'attendent pas, su aux guirlandes et aux décorations. Le pudding va brûler. Et ce n'est pas une sordide histoire de poisson qui va nous gâcher la fête. Car en Grande-Bretagne, comme en France...
Noël sera toujours Noël. Noël sera toujours Noël. Noël se fera dans tous les cas de figure. Noël aura évidemment lieu et se fera dans la joie.
Alors cette confession qui a eu lieu cette semaine tombe au plus mal, alors que les pêcheurs britanniques sont sur les dents, inquiets vis-à-vis du Brexit et avec la fermeture de la frontière française à cause de la pandémie. Certains bateaux restent à quai, les fruits de mer pourris sur place. Ulcéré, ce pêcheur écossais a même menacé le gouvernement.
We've been made a fool of.
Ce gouvernement s'est foutu de nous. Je suis en colère, je suis vraiment hors de moi. Si les exportations écossaises ne peuvent pas reprendre la semaine prochaine, alors on ira devant les portes de Westminster. Et on y déversera tout notre poisson pourri.
Du poisson pourri devant Westminster, bonne ambiance, alors que le débat sur la pêche déchire le Parlement britannique. Pour se défendre, le leader conservateur à la Chambre des communes est visiblement à court d'arguments.
Nous avons récupéré nos poissons. Ils sont maintenant britanniques et bien plus heureux comme ça.
Écoutez, si le moral des poissons va bien, pas sûr en tout cas que cela remonte celui des pêcheurs écossais.
Marie Mollet pour le titre de loser de la semaine dans On défait le monde à 19h44. On a un cadeau bien sûr pour les fidèles de l'émission.
L'indispensable cadeau d'On défait le monde qui fait rire les oiseaux et qui fait chanter les abeilles, comme le disait la compagnie créole.
Monsieur Cadeau.
Et Monsieur Cadeau par intérim ce soir, puisque c'est Damien Béchiot qui officie en régie. Alors Damien, vous avez quoi dans votre magasin?
Moi j'ai pas grand chose, par contre le vrai Monsieur Cadeau a quelque chose à vous proposer.
Allez, laissez un message.
Ça vous dirait une raclette à 19h en regardant tomber la neige par la fenêtre de votre appartement ou de votre maison? Eh bien ce soir, on vous offre un appareil à raclette gourmet de Tefal. Et alors c'est pas n'importe quel appareil raclette, hein. C'est un appareil raclette 3 en 1, il fait raclette, grill et plancha pour 8 personnes, faudra peut-être attendre un peu avant de se rassembler à 8. Et en plus, il y a un livret de recettes qui est inclus au cas où vous ne sachiez pas comment faire une raclette.
C'est génial,
il est fabriqué en Haute-Savoie, donc totalement made in France. Et c'est ce qu'on vous offre ce soir, enfin si vous répondez à la question que vous allez poser, Cyprien.
Et en plus, on a un cadeau bonus, hein, puisque c'est la tradition dans l'émission, quand quelqu'un de l'équipe part en reportage pour l'émission, et ben il ramène ou elle ramène un cadeau. Et Marie, vous étiez au Portugal la semaine dernière.
Oui, je vous ai rapporté ce magnifique petit coq en céramique qui sera du meilleur effet sur vos tables basses ou sur vos cheminées, et qui, en plus de son caractère esthétique évident, eh bien est tout à fait utile, puisqu'il comporte des pics apéritifs que voici.
Ah bah oui, avant la raclette.
Voilà, eux-mêmes sur montée de coq. Donc écoutez, j'espère que ça ravira vos convives.
Bah, le combo appareil raclette et coq, c'est à gagner si vous répondez à la question. Quelle star américaine va chanter pour la prise de pouvoir de Joe Biden? Brice l'a dit tout à l'heure, une star américaine. Hein. Est-ce que c'est Lady Gaga? Est-ce que c'est Mary Miriam? Ou est-ce que c'est Mireille Mathieu? Lady Gaga, Mary Miriam ou Mireille Mathieu? Vous avez la bonne réponse. 32-10, appareil raclette et coffre portugais. Et coque portugais.
Double cadeau ce soir. 3-2-1-0 sur votre téléphone. Vous nous rejoignez très nombreux comme tous les vendredis.
On défait le monde sur RTL.
19h45, billet retour quand on vous donne des nouvelles d'une info ou de quelqu'un qui a fait la une et qui a quelque peu disparu de l'actualité.
Et ce soir, on a décidé de s'intéresser à un personnage sulfureux qui a posé bien des problèmes à la Macronie, souvenez-vous.
Nous sommes le 1er mai, place de la Contrescarpe.
Cet homme casqué qui extrait sans ménagement une jeune femme n'est pourtant pas policier. C'est Alexandre Benalla.
Alexandre Benalla,
les affaires
Benalla. L'affaire Benalla est devenue incontrôlable pour l'Élysée.
Et oui, tellement incontrôlable que l'Élysée s'est séparée d'Alexandre Benalla, commission d'enquête au Sénat. Mais depuis, Laurent, il s'est passé quoi et surtout il devient quoi, Alexandre Benalla?
Alors, nous l'avons contacté indirectement cette semaine. Il n'a pas donné suite à nos messages et appels. Mais ce que l'on sait depuis 2 ans et demi, c'est qu'Alexandre Benalla a démarré une nouvelle vie loin de l'Élysée à 29 ans. Il a monté une société, Comia Group. Elle est spécialisée dans les domaines de l'intelligence économique et stratégique, gestion de crise, management des risques. Et l'ex-chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron est aussi président de l'Institut Vidox. C'est une plateforme de réflexion et de propositions sur les politiques de sécurité sécurité globale.
Et il s'est aussi mis à l'écriture.
Oui, en novembre 2019, il a sorti un livre écrit en secret qui a donné au départ quelques sueurs froides à l'Élysée.
Tu m'étonnes.
Pour dire sa vérité sur l'affaire qu'il a révélée au grand public. Ce qu'ils ne veulent pas que je dise, c'est le titre. Il estime être le fusible du pouvoir. Il avait confié d'ailleurs à nos confrères du Point, des gens ont écrit une histoire qui n'est pas la mienne. Ils m'ont mis sur scène, puis ils ont éteint le projecteur. Mais moi, je reste sur la scène et je rallume le projecteur. Je raconte désormais mon histoire. Bon, pas de quoi faire trembler la République.
Et donc, depuis 2 ans, il se tient à l'écart de la vie politique.
Alors, on va dire à moitié. Fin 2019, Alexandre Benalla se rend à plusieurs reprises à Saint-Denis et laisse planer le doute sur une candidature à la mairie. Il multiplie les petits signes. Il avait déclaré dans l'Obs, pour l'instant, je réponds simplement à des sollicitations, mais je ne m'interdis rien. Alors finalement, il renonce à se présenter au municipal.
Mais il ne s'est pas pour autant arrêté là.
Non, en février 2020, il tente de devenir l'assistant parlementaire du député Joachim Sonneforget, mais cela n'a pas été du goût du Palais Bourbon. Dans une note interne, l'Assemblée nationale avait confirmé son refus de délivrer un badge à Alexandre Benalla. Décision fondée sur un point de règlement. Il a créé une entreprise et qui œuvre dans le lobbying et l'influence, ce qui en interdit la fonction de collaborateur occasionnel. Et il avait contesté cette décision sur RTL.
On est en train d'inventer un règlement Benalla. Ma société n'est pas basée en France et elle exerce encore moins du lobbying. Elle fait de la communication d'influence. J'ai l'impression qu'en France, quand on essaye de faire des choses de manière différente, on est taxé de faire de la provocation. On ne fait pas de provocation.
Pas de provocation, mais Alexandre Benalla ne s'est pas arrêté là. Petit tac là, La République En Marche.
Est devenu un vrai parti politique d'apparatchik avec ses bureaux d'exclusion, sa capacité à préempter un certain nombre de postes, etc. Donc c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire quand on s'est engagé auprès d'eux. C'était renouveler, c'était lancer le débat d'idées, qu'il y ait de la liberté. Voilà, je ne soutiens pas LRV.
Ouais, ça avait le mérite d'être clair.
La dernière fois que son nom a été évoqué dans la presse, donc c'était au mois de septembre.
Oui, le 22 septembre 2020, précisément, les pompiers et le SAMU interviennent à son domicile. Alexandre Benalla est hospitalisé à l'hôpital Cochin en urgence relative. Il a été diagnostiqué positif au Covid-19, admis au service réanimation après une aggravation de son état de santé. Il est ressorti au bout d'une semaine.
Pardon Laurent, mais il en est où en matière de justice?
Alors, l'ancien chargé de mission à l'Élysée est visé dans pas moins de 6 enquêtes judiciaires. Et il est notamment poursuivi pour avoir obtenu et utilisé, après son départ de l'Élysée, 2 passeports diplomatiques pour voyager.
Et sinon, il est toujours actif sur les réseaux sociaux.
Alors ça, c'est sûr. Ça. Plus de 45 000 abonnés sur son compte Twitter avec un message posté le 6 septembre 2020. La vie nous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Et il n'hésite pas à commenter l'actualité à sa façon. Exemple, comme cette photo postée hier, 16h25, apéro, une bouteille de rouge sur la table, un verre à moitié vide, une assiette avec un morceau de fromage et de pain. Bah, une référence au couvre-feu à 18h pour contrer l'effet apéro.
C'était hier, ça.
C'était hier.
Et il a que 29 ans.
En plus, vie et retour, allez, signé Laurent Tessier sur Benalla. Merci pour tout cela, 19h49, vous restez bien là. On se retrouve dans un instant pour les ultimes minutes de On défait le monde.
On défait le monde sur RTL. Marche ou rêve ?
C'est un rendez-vous qu'on adore dans On défait le monde, marche ou rêve, quand on met en valeur vos projets, vos initiatives.
Et ce soir, Laurent, on s'intéresse à la jeunesse avec une initiative qui, franchement, nous a épatés.
Oui, parce que nous avons parlé cette semaine sur l'antenne de la détresse, l'épuisement moral des étudiants seuls derrière leur ordinateur avec les cours à distance, les difficultés aussi pour payer son loyer quand on n'a plus un travail à côté, pouvoir faire ses courses. Et des étudiants se bougent pour aider leurs camarades. Nous sommes avec Quentin, 22 ans, il est étudiant en Master 2 de droit à Dijon. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Alors Quentin, en lien avec le CROUS et la Fédération étudiante de Bourgogne interassociative, vous avez lancé une épicerie sociale et solidaire le 4 décembre. Comment s'est lancé le projet, Quentin ?
Alors en fait, au niveau du projet, nous on voulait réagir, notamment face à l'annonce du deuxième confinement, et on voulait pouvoir monter un projet pérenne pour aider directement les étudiants. Donc c'est à partir de ça qu'on a lancé l'épicerie, et puis à l'heure actuelle on aide à peu près plus de 80 bénéficiaires, 80 étudiants au quotidien.
Et vous en fait, dans votre Master 2 à Dijon, vous avez vu des étudiants en difficulté, c'est ça qui vous a donné envie de faire quelque chose ?
C'est vrai que les étudiants en difficulté, on les côtoie tous les jours, que ce soit dans le cadre des études, mais aussi par les différents témoignages qu'on peut recevoir directement, que nos associations peuvent recevoir. Donc c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir avoir un lieu physique où accueillir ces étudiants et les aider, et puis aussi discuter avec eux de leurs problématiques et les accompagner au mieux.
Quentin, comment s'organise l'épicerie ? C'est comme un mini supermarché ?
Oui, exactement. On a des produits de tout type, des produits frais, des produits d'hygiène et des produits secs. On a tout ce qu'il faut. Les étudiants peuvent venir. C'est des prix à 10% des produits à 10% du prix du marché. Et les étudiants peuvent faire leurs courses normalement.
Et vous les trouvez où, les produits ? On vous les donne ?
Ouais, on est fourni par la Banque Alimentaire qui est un de nos partenaires. Et puis, on travaille aussi avec un ensemble de partenaires qui nous aident pour l'acheminement des produits, notamment la Croix-Rouge française. Et donc, on a aussi un certain nombre de dons qui nous permettent de faire tourner l'épicerie.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples de prix? Ça coûte combien, par exemple, une boîte de conserve?
On est aux alentours des 10 centimes et en fait la majorité des produits est entre 10 centimes et 1 euro. On dépasse rarement les 1 euro sur ces produits.
Vous attendiez un tel, alors succès c'est pas le terme, mais une telle utilité en tout cas?
Malheureusement oui, on s'y attendait. C'est vrai que le problème de la précarité étudiante, il était déjà existant avant la crise sanitaire, mais c'est vrai que cette crise sanitaire a quand même contribué à le développer encore plus. Donc là on est sur une augmentation régulière au quotidien, mais en tout cas on va continuer notre action et faire en sorte que ce projet d'épicerie puisse devenir pérenne.
C'est une épicerie qui est réservée aux étudiants ou d'autres gens en difficulté peuvent venir aussi?
On est majoritairement sur les étudiants. En fait, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un accompagnement d'étudiant à étudiant avec un lien de confiance qui peut se tisser aussi directement entre les bénévoles et les bénéficiaires. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce cadre où on peut s'exprimer un petit peu plus facilement et on peut accompagner les étudiants.
Voilà ce que vous dites, Quentin. Vous aidez tous ces étudiants en difficulté à pouvoir faire leurs courses. Mais ce lieu, aussi cette épicerie, c'est un moyen de lutter contre l'isolement et éviter que chacun reste confiné dans sa chambre universitaire.
C'est sûr, c'est évidemment une problématique à l'heure actuelle, surtout au niveau du contexte. Et voilà, on essaye aussi de développer des projets subsidiaires avec la fédération et en fait faire en sorte que le monde associatif, de manière générale, parce que là la fédération se base en Bourgogne, mais c'est aussi une réponse qui s'organise dans toute la France pour aider les étudiants en difficulté sur ces points-là en particulier.
Eh bien, bravo ouais, Quentin, pour votre épicerie sociale et solidaire ouverte aux étudiants.
Donc, une petite dernière question, ça va avoir une durée cette épicerie, vous pensez? Vous avez un cap?
En fait, là, on a fait le constat qu'on est obligé. On est obligé de continuer au vu de la situation. Donc là, c'était une période temporaire qui était censée aller jusqu'à fin janvier, mais on va déjà prolonger le projet. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir construire un tiers lieu, pour pouvoir accompagner ces étudiants, même en dehors de la crise sanitaire.
Bah, bravo, c'est super.
Merci beaucoup, Quentin, du témoignage de ce soir. Marche au rêve et bravo encore une nouvelle fois. C'était précieux de le mettre en avant dans notre émission. Un gagnant ce soir.
Christophe de Vonin dans le Rhône. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir. Alors c'est pas dans le Rhône, hein, Vonin, c'est dans l'Ain.
Ah, dans l'Ain, dans l'Ain.
La géographie, oui. Cyprien Sini, vous savez. Ouais.
À côté d'Amberieu, alors peut-être.
Entre Mâcon et Bourg-en-Bresse.
Ah, très bien. Voilà. Vous voudrez que je connaisse la région. Moi, je connais Amberieu.
Allez, on y va.
L'Ormanodou. Alors, la question, c'était qui va chanter à l'investiture de Joe Biden? Est-ce que c'est Marie Myriam, Marie Mathieu ou alors Lady Gaga?
Lady Gaga.
Bravo. Oh, donc dur, vous gagnez la raclette et le cadeau bonus, le petit coq avec des petits pics pour l'apéro de Marie Mollet que vous avez ramené spécialement du Portugal.
Vous avez appelé pour ça, Christophe,
ouais, pour ça, le
coq portugais. C'est super sympa, merci beaucoup. Hein. Je suis ravi de vous entendre et bonne année à tous. Hein.
Ah bah, bonne année. On a encore jusqu'à la fin du mois.
Ça compte. Tout à fait, hein. Merci du coup de fil, merci de votre fidélité. Toute l'équipe revient bien sûr vendredi prochain, 19h15-20h pour défaire le monde. Belle soirée à tout le monde.
Salut.
Le ballon rond dans un instant.